Mes chers amis, nous allons reprendre encore une fois ce début du livre de Ruth, tellement essentiel pour la compréhension de l'ensemble des quatre chapitres. Nous relisons les cinq premiers versets et les versets 19 à 21 du chapitre 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Verset 19. Naomi et Ruth firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient: « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit: « Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Nous allons arriver à mi-course de notre réflexion. Nous avons déjà ensemble successivement brossé deux toiles de fond de ces deux livres que nous approchons en parallèle, le petit livre de Ruth, du temps des juges, et le livre d'Osée, beaucoup plus tardif et d'un autre genre. Nous nous sommes penchés sur la composition de la famille d'Élimélec, les circonstances qui les ont amenés à prendre une décision grave, à faire un choix stratégique. Et ceci nous a permis de commencer à évoquer ce processus du recul. Qu'est-ce que la vie rétrograde? Nous avons vu tout d'abord que la vie rétrograde consiste à quitter une position stratégique, et ici, cette position stratégique, c'est tout d'abord Bethléem, la maison du pain, l'éloignement dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Et nous avons pu voir, notamment hier matin, à partir du prophète Osée aussi, tout ce que cela pouvait signifier que ce drame de l'abandon du Seigneur, même en tant que son enfant. Nous nous sommes penchés sur cette hesed de Dieu, cet amour exclusif, cet amour entier, cet amour absolu, cet amour de l'alliance, cette constance, je dirais presque cette opiniâtreté dans l'amour de Dieu, cette solidarité sans faille de la part de Dieu dans l'alliance qu'il a bien voulu contracter avec nous en Jésus-Christ. Je vous signale, parce que je ne l'ai pas souligné dans le texte hier, que ce terme hesed se trouve au chapitre 1er et au verset 8 sur les lèvres de Naomi lorsqu'elle dit à ses deux belles-filles: allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté, dit souvent notre texte. Nous aurions pu traduire de loyauté, de solidarité, de hesed envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Et puis plus loin, au chapitre 2 et au verset 20, c'est encore Naomi qui dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux. C'est encore ici question de ce petit mot, vous voyez qu'il a, dans le contexte, a été rendu par miséricordieux, mais d'autres versions utilisent d'autres termes, celui qui n'abandonne pas sa fidélité, traduira la Tobe par exemple, celui qui n'abandonne pas sa fidélité pour les vivants, comme il fut miséricordieux pour ceux qui sont morts. Et puis un peu plus loin encore, au chapitre 3, et au verset 10, et c'est intéressant là, parce que c'est Bose qui utilise ce terme, lorsqu'il s'adresse à cette femme couchée à ses pieds. Nous aurons l'occasion d'évoquer cette scène. Boaz s'adresse à Ruth et il lui dit: sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait, c'est un peu dommage, c'est fade, parce que dans le texte original, il est question de la recette ici, ce dernier trait ou cette dernière marque de loyauté témoigne encore plus en ta faveur que la première. Et ici, il est question de la droiture de Ruth, la droiture morale, de l'amour de Ruth, du désintéressement de Ruth. Ce fait que cette femme est tout à fait prête à s'engager avec lui simplement par le souci de fidélité à la loi de Dieu en terre d'Israël, de manière a suscité une postérité à Naomi. Voilà, simplement, je le signale au passage, les trois endroits où nous trouvons ces termes. La vie rétrograde consiste donc à quitter Bethléem, la maison du pain. Puis nous avons vu, toujours dans ce chapitre premier, que quittant la maison du pain, quittant une relation personnelle vivante avec Christ, la remplaçant par la religion, par le formalisme, on quitte aussitôt Ephrata, qui signifie fécondité, plénitude, pleine de fruits, ce nom primitif de Bethléem, comme nous l'avons expliqué. Nous avons vu cette odeur de mort se répandre dans ces premiers versets, cette stérilité de Naomi qui rentre les mains vides et le cœur sec. Et nous nous sommes penchés sur le vocabulaire de Naomi lorsqu'elle évoque Shaddai, le dieu de la fécondité, le dieu nourricier, le dieu des mamelles, le dieu protecteur, parfaitement suffisant pour pourvoir à tous les besoins, même en temps de crise, même en temps de faillite, même en temps de famine, capable de pourvoir aux besoins de ceux qui se confient en lui, le Dieu de toute fécondité. J'ai été très frappé récemment dans la lecture d'un bon livre par ce témoignage, cette description en même temps de l'auteur. Il écrit ceci. Un matin, en me promenant dans les montagnes, j'assistais à une chose inoubliable. Je me reposais assis sur un rocher près d'un étang recouvert d'algues. Les moustiques dansaient sur la surface de l'étang. Et je regardais paresseusement les libellules aller et venir parmi les roseaux. Une grenouille prenait le soleil sur un rocher partiellement immergé au centre de l'étang. Tout à coup, je sursautais. Quelque chose arrivait à la grenouille. Devant mes yeux incrédules, elle s'affaissa. Non pas en tombant, mais en se dégonflant tel un ballon qui fuirait. À la fin, elle resta étendue là, tel un affreux tas de peau de grenouille fripée, tout son intérieur ayant complètement disparu. C'est alors que je vis le tueur. C'était une énorme punaise d'eau qui avait piqué la grenouille en lui injectant une substance qui avait dissous son intérieur. Elle s'était alors mise à aspirer l'intérieur de la grenouille, abandonnant sa peau semblable à une vieille bourse. Et il conclut. Beaucoup de croyants me font penser à cette grenouille, car quelque chose aspire leur vie et leur vitalité. Ils sont vidés. Leurs pensées sont devenues négatives, amères et pleines de ressentiments. Dieu leur semble très, très lointain. Ils sont épuisés spirituellement. C'est l'expérience de Naomi. Comblé, j'étais parti, dit exactement le texte. Comblé. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Et c'est là l'expérience du rétrograde. Ce que nous n'avons pas fait hier, c'est d'aller voir s'il y a dans le livre d'Osée des textes qui appuient, qui corroborent, qui enfoncent ce coin dans notre cœur. Il y en a plusieurs et ils sont particulièrement impressionnants. J'aimerais en lire quelques-uns avec vous pour montrer là le parallèle et l'illustration du livre de Ruth. Dans Osée chapitre 2, à partir du verset 5, on va même lire à partir du verset 4, où l'Éternel crie sa douleur, sa souffrance d'être bafoué ainsi dans son amour. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. N'est-ce pas? Elle se conduit d'une manière qui fait que dans la réalité tangible, dans la vie quotidienne d'Israël décadent, il n'y avait plus cette saine relation conjugale entre Dieu et Israël. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Écoutez, à partir de là, je la rends semblable à un désert, à une terre aride. Je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants, les Baals, mes seigneurs, toutes ces divinités locales dans lesquelles Israël s'était mise à se confier. Et généralement, ces divinités cananéennes pouvaient donner la fertilité, le culte, la fertilité était très très important à partir de ces divinités païennes. Et tout le message d'Osée s'inscrit dans le cadre de cette prétendue fertilité qu'apportaient les divinités païennes, les Baals, les Astartés, etc., n'est-ce pas ? J'irai vers mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voyez cette insistance. Allons vers Moab, puisque nous sommes dans une situation de famine, et Moab nous donnera le pain, l'eau, la laine, le lin, l'huile, la boisson. Et quelle est la réponse de l'Éternel ? C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines, et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et elle ne les trouvera pas. Ça, c'est l'histoire d'Elimelec et de Naomi, mais simplement élargie à l'expérience de tout un peuple, de tout un royaume, de 10 tribus, n'est-ce pas, quelque temps plus tard. Si vous allez un peu plus loin, on peut d'ailleurs même lire la fin de ce verset 9, nous y reviendrons, puis elle dira, j'irai, je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Si vous allez au chapitre 8 et au verset 7, 8 verset 7, un verset, mais combien suggestif dans ce domaine, qui est devenu d'ailleurs un proverbe, c'est intéressant, un dicton. Il y a bien des dictons qui vont chercher leur source dans les Écritures, et on ne s'en souvient plus avec le temps. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Et la version grecque des Septante, donc cette version de l'Ancien Testament, est intéressante parce que le terme qui remplace le mot tempête en grec, d'ailleurs c'est un mot grec francisé, il est facile à comprendre, c'est le mot catastrophe. Hein? Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la catastrophe. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Chapitre 9. Chapitre 9, versets 1 et 2 d'abord. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. Et les aires à blé étaient les lieux dans lesquels on fêtait en quelque sorte les divinités païennes qui présidaient à tout le domaine agraire et à la fertilité. Verset 2, l'air et le pressoir ne les nourriront pas. Le mou leur fera défaut, sera décevant, etc. Et puis un peu plus loin, au verset 10, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal, Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. N'est-ce pas? Combien même le disciple de Christ peut devenir ressemblant à ce qui peu à peu prend la place de Christ dans sa vie. Et alors là, ça devient bouleversant. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Vous savez, c'est un texte qui est bouleversant pour deux raisons. Tout d'abord parce que, je le disais tout à l'heure, le culte de la fertilité et de la fécondité était très fort en Israël à cette époque, précisément en relation avec tous les Baals et toutes les Astartés, n'est-ce pas ? Et voilà que l'Éternel dit, mais vous avez beau aller courir ici et là, vers vos sanctuaires, vous prosterner, vous prostituer pour essayer d'avoir une fécondité, Il n'en est pas question. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Et c'est d'autant plus intéressant que le terme Éphraïm, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, Éphraïm, Éphrata, c'est la même racine. Et Éphraïm veut dire précisément fécond. C'est-à-dire que tout le livre d'Osée repose sur un jeu de mots. N'est-ce pas ? Vous prétendez vouloir être fécond en dehors d'une relation avec moi par vos infidélités en allant vers votre Moab qui s'appelle l'Égypte, la Syrie, toutes les divinités cananéennes. Eh bien, mes amis, vous avez beau vous appeler Éphraïm, votre véritable fécondité ne peut venir que de moi. Et dans le livre d'Osée, j'ai noté que entre le chapitre 4 et le chapitre 14, qui forment le corps du livre, puisque les trois premiers chapitres sont introductifs et présentent tout d'abord la situation de famille dramatique du prophète Osée lui-même, eh bien, du chapitre 4, verset 1er, à la fin du chapitre 14, le terme Éphraïm revient, tenez-vous bien, 38 fois. Comme si le Saint-Esprit, en nous donnant ce livre du prophète Osée, avait voulu nous dire, mais quand vous lisez ce texte, arrêtez-vous sur ce mot Éphraïm, parce qu'il est un des mots clés du livre du prophète Osée. Je le relis à partir de là, ce verset, ou ces versets, de la gloire, le poids d'Éphraïm. La gloire, n'est-ce pas, dans la pensée hébraïque, le mot gloire, c'est le mot pesanteur, c'est ce qui a du poids, n'est-ce pas, et qui, par extension, traduit la qualité des œuvres, de la personnalité, du caractère. La gloire de Dieu, c'est la beauté impressionnante, tout le poids de son caractère et de ses œuvres, n'est-ce pas ? Alors la beauté, la pesanteur d'Éphraïm, c'est intéressant là, s'envolera comme un oiseau. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Verset 14, donne-leur au Éternel. Que leur donneras-tu ? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. En quelque sorte, mieux vaut qu'il n'ait pas d'enfants. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal, un des centres de l'idolâtrie de l'époque. C'est là que je les ai pris en aversion, à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Vous remarquez ici, et c'est un des grands tournants du livre, cette déclaration impressionnante, je ne les aimerai plus, ou je ne continuerai plus à les aimer, littéralement. Alors vous me dites, mais est-ce que cela ne s'inscrit pas en contradiction avec ce que nous avons dit hier matin ? Nous avons parlé de cette hésette de Dieu, de cet amour fidèle, constant, n'est-ce pas, qui ne plaque pas son peuple comme ça, comme aujourd'hui, si facilement, on laisse tomber l'autre parce que l'on n'est plus satisfait avec lui ou elle, et parce qu'on a vu meilleur, soi-disant, ailleurs, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il n'y a pas la contradiction ? Eh bien, il faut savoir qu'il y a dans le livre d'Osée trois mots hébreux qui, tous les trois, différents donc, peuvent être rendus par le mot « aimer » dans notre langue française. Mais ce sont des mots différents. Et ici, nous n'avons pas le mot « hesed ». Il n'est pas question de cette solidarité, de ce contrat, de cet engagement, de cette constance, de cette loyauté, de l'amour lié à une alliance. En réalité, on pourrait traduire ici « je ne continuerai pas à leur faire ressentir concrètement mes sentiments d'amour ». C'est un autre terme qui est tourné vers l'affection. Et c'est intéressant parce que lorsque deux êtres, homme et femme, s'aiment, leur relation commence avec ce mot-là. non pas avec le mot Hesed. Ils commencent d'abord à ressentir l'un pour l'autre des sentiments qui sont assez inexprimables. Hélas, beaucoup s'arrêtent là. Le mariage, lui, doit intervenir lorsqu'il y a Hesed, lorsqu'on fait le pas de plus, c'est-à-dire que la volonté s'engage, toute la personne s'engage à faire contrat, à faire alliance et à demander à Dieu de jour en jour ce renouvellement et cet approfondissement d'un amour qui touche la personne tout entière et qui nous rendra capables de tenir ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors ici, n'est-ce pas, il y a la différence entre les deux. Mon alliance, je ne vais pas la rompre. Je vais même un jour, et ça c'est sous-jacent livre d'Osée, un jour je vais faire une autre alliance. Une nouvelle alliance. En mon fils Jésus-Christ. Mais en tout cas, la recette, je ne l'abandonne pas. Mais par contre, je ne peux pas manifester mon affection vis-à-vis d'un peuple qui, tout en m'appartenant, se prostitue d'une telle manière. Vous avez la même pensée dans Ésaïe 63, verset 15. Lorsque Dieu lui-même, par la bouche du prophète Ésaïe, c'est Ésaïe qui décrit cette attitude du cœur de Dieu dans Ésaïe 63, 15, par ces mots, « Le frémissement de tes entrailles et tes compassions se contiennent envers moi. » Il y a un moment où dans les relations entre Dieu et son peuple, Dieu a voilé sa face. Et Dieu a cessé de frémir de tendresse vis-à-vis du peuple. Et il devait se contenir. Ce n'était pas quelque chose de facile pour nous, je dirais, c'est facile d'avoir ce frein dans le frémissement de nos entrailles et de nos compassions. Il suffit que notre frère ou notre sœur nous marche sur les pieds pour qu'aussitôt, on n'a pas besoin de se contenir. On a peut-être parfois besoin de se contenir pour ne pas riposter avec méchanceté, parce que notre cœur est comme ça. Mais le Dieu qui est amour, lui, quand nous agissons de cette manière, lui doit se contenir, parce qu'il voudrait continuer à nous donner son affection. Mais il ne peut plus. Il ne peut plus s'exprimer de cette manière. Il va continuer, si vous voulez, à nous aimer. Mais son amour va s'exprimer d'une manière tout à fait différente. Et quand on est père ou mère, on sait ce que ça signifie. Il me souvient avoir dû dire à tel ou tel de nos enfants, tu sais, j'aimerais bien vraiment te prendre sur mes genoux en ce moment et te caresser de tout mon cœur. Mais je ne peux pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour dans mon cœur pour toi. Mon cœur est un peu comme un réservoir, mais un réservoir qui est bouché. Il est plein d'amour, mon cœur, pour toi. Mais en ce moment, je ne peux pas t'exprimer mon amour comme je le fais quand ça va bien entre nous. Et rien n'est plus difficile dans une vocation maternelle ou paternelle qui veut être vécue dans la justice de l'amour de Dieu que de devoir la contraindre, n'est-ce pas, se contraindre à aimer d'une nouvelle manière en disant je te reprendrai sur mes genoux, tu auras à nouveau droit à mes caresses. Tu auras à nouveau droit à mes mots doux. lorsque vraiment il y aura quelque chose qui se passera chez toi. C'est important parce que nous allons donner à nos enfants ou une fausse ou une juste vision de la personne de Dieu, de son amour, de sa tendresse. Parce qu'il est vrai, je le répète, qu'il y a des moments dans nos vies où Dieu se contraint en quelque sorte, où Dieu se contient aussi en quelque sorte. Ça, c'était un peu le problème aussi de Naomi lorsqu'elle était en terre de Moab. Le texte d'ailleurs va plus loin, au verset 16 et 17 encore. Hein? « Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche, ils ne porteront plus de fruits, et s'ils ont des enfants, je ferai périr le fruit chéri de leurs entrailles ou les objets de leur tendresse. Mais mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. » Et ils seront errants parmi les nations. Avant d'évoquer la troisième dimension de ce territoire sacré à ne pas quitter, une dernière constatation, elle est d'importance. Ce sont les dégâts. Les dégâts autour de soi, dans la vie du rétrograde, surtout dans les situations de régression qui durent. Vous l'avez vu, c'est un des aspects difficiles du début du livre de Ruth sur lequel on passe un peu trop facilement comme chat sur braise. Verset 4. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Deux mariages catastrophiques avec des Moabites. Deux mariages entre lumière et ténèbres. Nous avons vu semblable expérience l'an dernier lorsque nous avons examiné ensemble l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham. Lorsque Lot a fait un choix dans Genèse 13, qui l'a conduit peu à peu jusqu'à s'installer dans Sodome, vous savez finalement ce qui est arrivé. Pour ses enfants, pour ses filles, et il est évident que ce qui s'est passé dans la caverne dont nous avons parlé, qui a engendré les Moabites et les Ammonites, on peut partiellement le comprendre. Précisément à cause de ce fait, de ce choix, n'est-ce pas, de s'installer finalement dans Sodome. Il y a toujours des répercussions à notre vie rétrograde dans le cercle où nous vivons. Je ne veux pas dire que ce soit forcément des pertes irrémédiables. Je ne veux pas dire non plus qu'il nous faille systématiquement, oh, loin de là, non, jeter la pierre chaque fois que nous voyons des enfants de croyants épousés des Moabites. Je ne vais pas développer cette question ici, nous devons être prudents dans ce domaine. Mais ce que j'aime à dire chaque fois, c'est que notre responsabilité, par exemple, en tant que parents, est grande de ne pas favoriser ces situations, ces climats qui vont être pour nos enfants une tentation supplémentaire à toutes celles qu'ils connaissent déjà sur le chemin de leur vie scolaire, lycéenne et au-delà, n'est-ce pas ? Notre responsabilité,
et de ne pas apporter un supplément de tentation par un cœur partagé, par nos propres choix de type moabite. Parce qu'alors, bien sûr, surtout aujourd'hui, avec toutes les pressions qu'ils connaissent déjà, n'est-ce pas, dans leur propre cadre de vie, en dehors du cercle familial, jour après jour et tout au long de l'année, si nous leur donnons de surcroît un coup de pouce, ne nous étonnons pas. C'est vrai qu'il n'est pas un parent qui, élevant, ayant élevé des enfants, n'est parfaitement satisfait de la manière dont il l'a fait. Bien au contraire. Mais nous connaissons quand même nos cœurs devant Dieu. Et nous savons quand même au fond de nos cœurs devant Dieu si oui ou non nous avons vécu des situations moabites et de longues situations moabites tout en étant disciples de Christ. Et malgré les interpellations du Saint-Esprit et qui ont créé autour de nos enfants ou d'autres bien-aimés de notre environnement, y compris parfois même dans l'église locale à laquelle nous appartenons, un climat tristement favorable à de la destruction dans la vie d'autres personnes autour de nous. Il y a quand même, il faut le dire, un message solennel que l'on ne doit pas pousser à l'extrême, que l'on ne doit pas déséquilibrer, mais qui est là pour nous rappeler notre responsabilité. Venons-en à notre troisième dimension de la vie rétrograde. Et nous le redisons, toutes ces dimensions sont indissociables et lié d'une manière toute particulière à la première. Ne perdons pas de vue la première dimension. C'est le fait de quitter Bethléem, c'est le fait de cesser d'avoir cette relation personnelle étroite, en profondeur, avec Christ sanctifié dans nos cœurs comme Seigneur. 1 Pierre 3, n'est-ce pas, qui engendre cette perte de fécondité, de plénitude de fruits. Et c'est aussi, bien sûr, en s'éloignant de Bethléem qu'on s'éloigne de Judas. Le texte le dit, n'est-ce pas ? Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Judas. Et si le chroniqueur le souligne, et c'est tout simplement d'abord pour des raisons purement géographiques, parce qu'il y avait un autre Bethléem en Israël, Bethléem de Zabulon, à quelques kilomètres à l'ouest de Nazareth. Il est question de ce Bethléem-là dans Josué 19 au verset 15. Alors, il y a là une précision, mais au-delà de cette précision qui pourrait apparaître banale, se cache un autre message. Et que l'on comprend, qui s'intègre remarquablement sans qu'on essaye de forcer une des pièces du puzzle, n'est-ce pas ? Lorsqu'on sait simplement que Judas signifie célébrer, qu'il soit loué, qu'il soit célébré. Et c'est vrai que vivre une vie rétrograde, c'est s'éloigner d'un climat de bénédiction, d'un climat de célébration, d'un climat de louange. Et Naomi est obligée de le confesser. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Mara. Ça vous prend là quand vous le prononcez. Il y a de ces mots, rien qu'en le disant, ça vous sert à quelque part. Mara. Car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère, m'a rendu amère à l'extrême, rendra une autre version. Et c'est un terme très fort, il est dans le texte original, par exemple, associé à la mort dans 1 Samuel chapitre 15 verset 32, c'est le même mot, associé à la mort, m'a rendu amer à l'extrême. Le charme de Naomi s'est transformé en amertume. Je pense à quelqu'un tout à fait particulier que je ne, bien sûr que je ne vous citerai pas, mais que nous avons vu il y a quelque temps sur quelques jours, passer d'un véritable rayonnement spirituel, d'une joie lue. Et des amis nous l'ont dit aussi, à une amertume extrême, parce que précisément cet enfant de Dieu était entré dans un processus rétrograde. Mais c'était frappant de voir la différence très forte. Des amis nous l'ont dit, mais c'est incroyable. On ne reconnaît plus cet enfant de Dieu. Il est, mais tout autre. L'amertume, c'est le résultat de l'insatisfaction spirituelle. Il est dit dans Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15, Hébreux 12, 14 et 15, « Veillez à ce que personne ne se prive ou ne se détourne de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Le rétrograde, c'est le disciple de Christ qui se prive de la grâce de Dieu. Ou peut-être simplement parce qu'il se met sous le joug de la loi. Le légalisme entre dans le programme de la vie rétrograde. Dans la parabole du fils prodigue, le frère aîné s'apparente lui aussi finalement à un rétrograde. Il est amer, coléreux, insatisfait, parce qu'il n'a pas des rapports de fils à père, nous l'avons vu. Le problème du fils aîné, c'est que son pharisaïsme le prive de la grâce du Père. Et voyez-vous, c'est frappant dans nos vies, il n'y a pas besoin d'aller voir bien loin. Mais entrez dans le processus de la vie rétrograde et vous deviendrez amer. Vous aurez peut-être un zèle amer. Le rétrograde n'est pas toujours un disciple de Christ qui se tourne les pouces. Il peut être très actif dans sa vie d'église locale. Nous y viendrons, d'ailleurs nous le soulignerons dans le processus du réveil. Mais le problème, c'est que la sagesse d'en haut, dans son zèle, fait place à une sagesse d'en bas. Son zèle devient amer. Il pense peut-être qu'il fait mieux que les autres. Il développe un esprit de dispute, de mécontentement. Tout devient négatif. C'est celui qui, dans un courrier au responsable de l'église locale, va faire le procès de l'église locale. Il n'en voit plus que les défauts. Et le problème, c'est que lorsque vous lisez le contenu de sa lettre, vous n'êtes pas étonné, parce que vous découvrez que le contenu de sa lettre est d'abord une projection de son propre problème. Combien de fois il m'est arrivé de devoir dire à quelqu'un qui faisait le procès de l'Église ou du milieu spirituel dans lequel il évoluait, mais tu sais, tu ne te rends pas compte que, en réalité, en faisant ce procès, c'est ton propre procès que tu es en train de faire. Est-ce que tu ne réalises pas que ton mécontentement vient de ton propre état? Et que tu vois l'Église avec un regard qui est déformé par ton propre péché. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une part de vérité dans ce qu'il dit. Mais que d'aspects rejoignent sa propre expérience, en réalité. Les projections. J'ai souvent raconté cette histoire vraie de ce prêtre aux USA qui tente de régler une dispute entre deux femmes de sa paroisse. La dispute était grave. Elle faisait d'ailleurs le tour de la paroisse. Elle est finalement venue aux oreilles du curé. Et il décide d'intervenir parce que ça allait nettement trop loin. Alors il va rendre visite tout d'abord à Caroline. Et il écoute Caroline pendant 2 heures. Qui vomit toute sa lave incandescente, n'est-ce pas, tout ce qui est là au-dedans d'elle, des bombes volcaniques et tout le reste, n'est-ce pas, au sujet de sa voisine. Sa voisine, là, qui habite là, juste à côté, voilà que dans son attaque, alors que le prêtre commence à être quelque peu sceptique, à se dire, oui, manifestement, il y a quand même des problèmes, parce qu'elle est, elle est rudement extrémiste dans sa position, voilà qu'à ce moment-là, Caroline doit surprendre un brin de scepticisme dans le regard du prêtre et elle regarde par la fenêtre et elle montre le linge de la voisine en disant mais regardez, comment voulez-vous que je supporte cette voisine? Elle est incapable de laver son linge comme il faut. Le seul spectacle que j'ai, c'est son linge dégoûtant. Mais regardez! Alors le prêtre jette discrètement un coup d'œil et il admet que le linge semble en effet très sale. Et finalement, le curé s'excuse, il quitte Caroline et bien sûr il fait ce qu'on doit toujours faire dans ces situations, il va frapper à la porte chez Bernadette. Ah, Bernadette, c'était l'Amazone. Des tonnes de larmes. Elle mouillait, mouchoir après mouchoir, elle remplissait ses seaux de larmes. Et elle essayait, entre 2 mouchoirs et 2 hoquets, d'expliquer au prêtre qu'elle avait beau faire tout ce qu'elle pouvait pour essayer de ne pas provoquer la colère de sa voisine, marcher sur les pieds, marcher sur la tête, ça ne servait absolument à rien. C'était de pire en pire. Et elle en était arrivée à un stade où elle était devenue absolument dépressive. Alors, pendant qu'elle racontait tout ça, le brave prêtre était en émoi et subitement, il essaye de trouver des repères dans tout cela, et puis il pense à ce qu'avait raconté Caroline. Et très discrètement, pour ne pas vexer, il voulait être plein de tact vis-à-vis de cette femme en pleurs qui était devant lui, il jette un coup d'œil. Le linge était propre. Alors, je dis, tant pis, hein, cette fois-ci, je regarde un bon coup, qu'elle s'en rende compte ou pas, mais il faut quand même que je voie clair. Hein. Il regarde bien, le linge était propre. Alors, je dis, puis, finalement, il comprend. C'était pas une question de linge sale, c'était simplement les carreaux, les fenêtres. Chez Caroline, qui était sale. Le rétrograde est celui qui regarde les autres, n'est-ce pas, au travers de ces carreaux sales. Et attention, mes amis, dans ces situations, vous et moi, nous sommes toujours tentés de voir les lunettes des autres. Hein. C'est de moi qu'il est question ce matin. C'est pas de tante Ernestine et de la sœur Intel et du frère je ne sais pas quoi. C'est de moi. Un philosophe a dit, nous sommes d'autant plus sévères pour les défauts des autres, que ce sont nos propres défauts qui nous choquent en eux. Au point qu'on pourrait soutenir cette thèse, dis-moi ce que tu blâmes en autrui, et je te dirai ce qu'il faut blâmer en toi. Et Maurice Druon,
L'Académie française disait ceci: il en est des défauts comme des phares des automobiles, seuls ceux des autres nous aveuglent. Il est arrivé à ma femme de me tirer par la manche quand je pestais contre celui qui n'avait pas modifié ses phares de nuit en face de moi. Mieux, et dit: tu sais, il est en train de te faire des appels, c'est toi qui as le problème. C'est un des fondateurs de la psychiatrie, Jung, qui appelait ça le phénomène de l'ombre. Ce qu'on ne veut absolument pas, ce qu'on n'aime pas. On dit: dans mon caractère, tout sauf ça. On hait cet aspect. Et on le hait généralement parce qu'il est là. Et en réalité, on le refoule. C'est une manière d'essayer de l'évacuer. On l'envoie là, dans le subconscient. Mais le problème, c'est que dans nos relations avec les autres, il suffit qu'on croise quelqu'un qui présente apparemment ce que l'on a refoulé pour que aussitôt l'ascenseur remonte, n'est-ce pas? C'est apparent chez l'autre, ce n'est pas forcément la réalité. Ça peut être quelque chose qui ressemble. Dans l'histoire du jeune David entrant sur le champ de bataille pour confronter Goliath, lorsqu'il fait son tour d'enquête pour savoir la raison pour laquelle ses grands copains et ses frères tremblent comme des feuilles mortes en face de ce Goliath, il se fait terriblement reprendre par son frère aîné, Eliab, le chef de la famille. Et Eliab lui dit: mais qu'est-ce que tu fais là, gringalé, hein? Je connais ton orgueil, je connais la malice dans ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es venu ici. Retourne à tes brebis, hein, sous-entendu. Qu'est-ce que tu viens nous ennuyer? Nous sommes des gens bien. Et en réalité, ce qu'il dit, c'est une projection de son propre cœur. Parce qu'une des grandes qualités, ou deux des grandes qualités de David, sauf dans les cracks de sa vie, c'était son humilité et la droiture de son cœur devant l'Éternel. Eliab n'avait fait que projeter ce qui était là dans son propre cœur, et c'est la raison pour laquelle Dieu n'avait pas voulu dans 1 Samuel 16, n'est-ce pas, que lui soit le roi. Quand il est passé là devant Samuel, et que Samuel lui a dit: oula, il est bien celui-là, il est grand, il est beau, fantastique, ça a fait penser à Saül, n'est-ce pas, Dieu a dit: non, Samuel, non, tu te trompes. Il est beau, il est grand, tout ce qu'on veut, mais moi je connais son cœur. Et parce que je connais son cœur, je ne le veux pas. Et Samuel a été très étonné. Alors pour que nous comprenions que Dieu est un Dieu juste dans ses choix, dans le chapitre suivant, chapitre 17, Dieu ouvre un petit peu la porte pour que nous puissions comprendre. Il dit: mais le problème d'Eliab, c'était son orgueil. Il n'était pas droit, il projetait sur les autres. Au lieu de dire: oui, eh ben, on a peur, on a la frousse. Non, on projette. Et c'est si souvent comme ça dans nos propres vies. Alors que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Plus de joie dans le Seigneur, plus d'esprit de louange, de reconnaissance, de prière. Il y a dans les psaumes deux psaumes très intéressants à cet égard. Tout d'abord le psaume 137, qui dit ceci des versets 1 à 4. « Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions. » En nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Voilà des hommes et des femmes qui étaient châtiés en exil,
Et lorsque leur vainqueur leur demandait un concert, pouvaient pas. Comment est-ce que nous pourrions chanter alors que nous sommes sur une terre d'exil? D'ailleurs, le texte continue, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, etc. N'est-ce pas? Et puis alors, vous avez le psaume 126 qui est l'écho, la suite, n'est-ce pas? Verset 1 à 5, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche riait de joie, notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, oh, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Viens une prière qui suit éternelle, ramène nos captifs comme des torrents dans le Négeb. Des torrents dans le Négeb, l'eau qui revient. Vous souvenez de notre introduction? Vous voyez cette unité des Écritures, l'eau qui revient dans le désert du sud d'Israël. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Ah, quand on quitte cette situation d'exil, alors la joie revient. Lorsqu'on retrouve Jérusalem, lorsqu'on retrouve le sanctuaire, lorsqu'on retrouve l'assemblée de l'Éternel, lorsqu'on retrouve la maison du pain, alors la joie revient. D'ailleurs, c'est intéressant, vous le savez sans doute, Judas et Juif ont la même racine. Hein, et le mot Juif, précisément, signifie celui qui loue l'Éternel. Et c'est là, d'ailleurs, le propre du judaïsme. On loue Dieu dans toutes les circonstances de la vie. J'ai relu récemment ce qu'on appelle la prière des 100 bénédictions, n'est-ce pas? Tout au long de sa journée, depuis le moment du lever jusqu'au moment du coucher, il y a des paroles de bénédiction qui parcourent la vie du juif pieux. Et j'avais lu avec beaucoup d'intérêt cette remarque au sujet du titre général donné par les juifs aux psautiers, à l'ensemble de ces 5 livres qui forment les 150 psaumes, n'est-ce pas? Et il est intéressant de constater que le titre général, c'est un mot hébreu qui veut dire « louange ». Non pas pour ce qu'on appelle les psaumes du petit Hallel et du grand Hallel. Vous savez que vous avez toute une série de psaumes qui éclatent, qui débordent de louanges, un peu au-delà du psaume 100. Mais tous les psaumes, ce qui a fait dire ceci à un commentateur, on peut louer Dieu de bien des manières, en l'adorant, en chantant sa joie de le connaître, en le remerciant pour ses bienfaits. Mais on peut le louer également en l'appelant au secours, en exhalant devant lui son indignation en face de l'injustice des hommes, en réclamant son intervention dans le cours de l'histoire, en rappelant ses hauts faits du passé, en exprimant la foi dans son triomphe final. Pourquoi? Parce que toutes ces attitudes sont des signes de notre dépendance de Dieu. Et je trouve qu'on a singulièrement rétréci le programme de la louange. On en a fait un programme trop monocorde. Quand parfois dans le Seigneur, je pleure devant lui où je m'indigne, cela monte aussi comme un parfum d'une agréable odeur. Seigneur, je dépends de toi. Et parce que je dépends de toi, je veux vraiment t'ouvrir mon cœur. Et c'est une manière de te dire que je t'apprécie, que je crois que tu as une oreille attentive, que tu n'es pas insensible, indifférent, que tu es le Dieu qui vient, qui intervient dans mon histoire, dans notre histoire, dans l'histoire de ma famille, de mon église, etc. La louange, dans ce sens, tout comme l'adoration, la célébration de Dieu, sont le fruit d'une vie centrée sur Christ, dans la plénitude du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 et 19, n'est-ce pas? Soyez continuellement, d'instant en instant, remplis de l'Esprit, vous entretenant les uns les autres, n'est-ce pas, par des psaumes, des cantiques, des louanges, n'est-ce pas, etc., n'est-ce pas? La première expression de ce fait de ne pas vivre une vie rétrograde, ce sont ces dimensions-là. Alors que dans Osée 2.13, il est dit « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. » Et si vous preniez le prophète Joël et les autres prophètes qui parlent de la vie rétrograde, vous auriez exactement la même chose. Toute la vie de prière authentique et vivante s'étiole dans le recul en Moab. Il me reste peut-être simplement, et je termine là, puisque nous parlons louange, à vous citer sans plus, sans spécialement le commenter, cette remarque que j'ai beaucoup appréciée dans une lecture et qui me semble très importante et très à propos aujourd'hui dans la mode de la louange, c'est vrai, qui veut contrebalancer la pénurie de louanges qui a trop souvent caractérisé le peuple de Dieu, mais qui est tenté d'aller à l'extrême. Et un auteur écrit ceci: « La vive émotion de ressentir la présence de Dieu ne doit pas être confondue avec l'expérience de le connaître au travers de la relation de l'alliance. » Nous avons parlé d'alliance. Certes, Dieu institua les chorales et la musique, mais certainement pas pour remplacer la connaissance de sa personne. Elle ne devait être que l'expression d'une relation avec lui. La louange n'est pas une drogue divine dont le but serait de calmer les souffrances de la vie. C'est parce que nous connaissons Dieu que, même au milieu des blessures de l'existence, nous sommes malgré tout capables de le louer. Notre relation avec Dieu est avant toute chose une réponse de notre foi. Souvent, en dépit des apparences et des impressions, notre vie est fondée sur la personne de Dieu et non sur les sentiments que nous pouvons ressentir à son égard aujourd'hui. Donc le point de repère de ma vie chrétienne, ce n'est pas la louange. Nous le comprenons, n'est-ce pas? Et puis il y a dans les Écritures, faut-il le dire, j'y pense à l'instant, un des grands cracks de la louange qui a craqué. L'homme par excellence qui avait été choisi et doué par Dieu pour conduire la louange, pour être chef d'orchestre et chef de chorale, Asaph, vous le savez, à un moment donné a fait une crise spirituelle terrible. L'homme qui était le spécialiste, doué par Dieu dans ce domaine, et qui dans le psaume 73 se met à broyer du noir, n'est-ce pas? Qui est vidé de sa substance comme la grenouille de tout à l'heure. Qui entre dans un processus rétrograde dont il va sortir lorsqu'il entrera dans le sanctuaire de Dieu. Alors nous y viendrons là. Il y a là, je crois, un message aussi éloquent pour nous. Nous nous arrêtons ici. Nous voulons prier simplement. Ô Seigneur, merci. Merci pour la clarté de ta parole. Merci pour son unité dans ce message absolument essentiel. Merci aussi parce qu'elle nous rejoint au... Oui, jusque dans nos tripes, jusque dans nos entrailles. Tu nous rejoins dans notre vie de tous les jours. Dans ce que nous vivons, dans ce que nous ressentons, dans nos relations avec toi, avec les autres, dans nos crises. Seigneur, merci, parce que c'est aussi signe de ton amour, de ton intérêt quant à nos situations. Seigneur, tu sais combien de fois j'ai été amer, combien de fois déjà j'ai projeté sur les autres parce que je me suis privé de ta grâce, parce que je ne suis plus venu à la source de la grâce pour être comblé par toi
Alors j'ai voulu sucer chez les autres ce qu'ils étaient incapables de me donner. Et je suis devenu un homme mécontent. Seigneur, tu connais notre histoire à chacun et ces moments que nous connaissons les uns et les autres. Pardon aussi pour toutes les fois où d'autres reçoivent des éclaboussures de notre vie rétrograde. Mais merci à nouveau ce matin de pouvoir changer d'attitude et venir au pied de la croix. Seigneur, prépare ces prochaines études, laboure dans nos vies, aux uns et aux autres. Garde-nous du malin, mais construis dans nos vies du solide. Et Seigneur, que ce que nous voyons ensemble, nous le te demandons, serve aussi dans nos vies d'église, dans nos vies de famille, dans nos vies conjugales, ou même, parfois hélas, dans la solitude de nos vies, mais où avec toi, nous ne sommes plus jamais seuls. Merci. Merci de nous aider à serrer tout cela dans notre cœur, à profiter de ce temps de vacances aussi, pour faire le point, pour repartir avec toi d'un bon pied. Merci. Nous voulons le redire, ô notre Dieu, en Jésus-Christ. Suffit pleinement à nos cœurs, de plus en plus. Nous te bénissons parce que tu nous exauces en Jésus-Christ à cause de son nom. Amen.